Seigneur, c'est avec vous et avec votre Évangile de
esprit.
Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Marc. Gloire à toi. Aussitôt, après avoir nourri les 5 000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaï, pendant que lui-même renverrait les foules. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus, lui, tout seul à terre. Voyant qu'ils peinaient à ramer parce que le vent leur était contraire, Jésus vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer. Et il voulait les passer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme. Et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient terrorisés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux. Il leur dit: confiance. C'est moi, n'ayez pas peur. Jésus monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et voici qu'en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, c'est un évangile, Seigneur, se répand sur la terre, dans une rosée vivifiante, qu'elle pénètre toute chair assoiffée de grâce en bénédiction, qu'ils puissent voir s'ouvrir devant leurs yeux dès cette terre, les portes de la Jérusalem d'en haut, lavées de toutes leurs fautes, au nom du Père, du Fils, du Amen. Louange à toi. Alléluia. 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 À propos du pain, à propos de l'Eucharistie, quoi. Ils n'avaient rien compris, leur cœur était endurci. L'appel de l'épiphanie, c'est de comprendre de l'intérieur ce qui se passe dans la transubstantiation et dans la transactuation eucharistique. La transubstantiation, ça passe à la messe. La transactuation, elle se fait dans l'indivisibilité de Dieu, après la communion, au sens réel. Dès que Jésus monte sur la barque, l'évangile indique qu'aussitôt ils arrivent, alors qu'ils n'avaient même pas fait un tiers du trajet. Pourquoi? Pour montrer que l'Eucharistie, le pain, c'est la présence réelle, et cette présence est très puissante, elle est féconde, elle est immédiatement efficace, elle nous fait arriver immédiatement à la fin. Il nous fait bondir à travers le temps, il nous fait atteindre la fin, matériellement, parce que la terre solide de la résurrection, l'autre bord, nous est donnée de manière, dans notre corps spirituel, tachyoniquement. On peut le dire aujourd'hui, tachyoniquement. Bon, bien sûr, je comprends très bien que bon, mon Dieu va me donne la permission à ce bombardement nanométrique de particules infiniment petites, qui sont récepteurs de. Qui vont être récepteurs de manipulations collectives ou individuelles. Des trucs qu'on ne peut voir qu'au microscope, qu'on ne peut pas repérer quand on boit un verre d'eau. D'accord. Mais dans l'Eucharistie, le bombardement tachyonique, qu'est-ce que tu en fais? Dès que tu reçois l'Eucharistie, le sang de Jésus, alors à ce moment-là, le sang de Jésus, tu prends autorité tachyoniquement sur tous les éléments de matière, tu les détruis, les anéantis, tu les fais parvenir à leur anéantissement dans l'aquilon, dans la fin. Tu touches l'humain, c'est une présence réelle, immédiatement efficace, c'est éternel. Bon, ça c'est voilà, ça c'est le commentaire classique. Commentaire classique, voilà, que vous avez déjà entendu souvent quand c'est pas bon. C'est multiplié le pain, 105 000, c'est pour le père et c'est pour Marie qui se donne une nourriture, 5 000, c'est tout. Voilà. Très bien. Et il est une présence réelle, il est réellement présent. Et dès qu'on comprend qu'il est réellement présent, on est arrivé. Le temps est vaincu, la matière aussi, l'univers. Voilà, bien sûr, déjà, qu'il soit né dans une mangeoire, qui dit il faut se nourrir de moi. Il faut être assoiffé de moi. Boire à la coupe l'amour délicieux des délices éternels dont je suis le principe, la source et l'hypostase. C'est ça l'Eucharistie. Et je suis tout puissant, quoi. Dès que j'émane dans la chair et j'en surabonde, nous avons toute autorité, puis c'est tout. Donc il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Faut avoir confiance, c'est tout. Bon, voilà, ça c'est. Voilà, ça c'est un bon classique, ça. C'est vrai, c'est classique, ça. C'est facile. Mais leur cœur était endurci. Ils n'avaient rien compris. Ouais, c'est. Il y a quand même quelque chose d'apocalyptique dans cet évangile de Jésus qui marche sur les eaux. Tout le monde a peur et finalement il rentre dans la barque et on n'est pas arrivé même à la moitié du chemin. Ça signifie quand même quelque chose, c'est qu'au bout d'un 50 ans parcours de l'Église, bon, on n'est pas à la moitié du chemin encore, il va y avoir une espèce de parousie. Bon, les gens vont être terrorisés, peut-être, bouleversés, je ne sais pas, fatigués en tout cas, ça. Et puis, ils n'ont rien compris, quoi. Hein? Pas vous, bien entendu. Vous avez tout compris, mais les autres.
Incapable de comprendre.
Mais vraiment rien, quoi. Alors là, on peut faire la théologie. On dit, voilà. Quand même, l'Église, quelque part, dans ses profondeurs, elle a compris. C'est les hommes qui ne comprennent pas. Mais l'Église, elle comprend ce que c'est que l'Eucharistie. Elle dit bien, l'Église. Elle le dit. Bien sûr que c'est une transsubstantiation. Tout de même. C'est une présence, donc l'Eucharistie, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'intérieur de l'éternité. L'Eucharistie vient d'en haut. Et elle nourrit la paternité de Dieu. C'est une action de grâce. C'est un remerciement. Puisque Dieu a pu émaner de la chair, alors il donne à la chair cette source d'émanation de Dieu. Et ça nourrit Dieu, puisque Dieu se nourrit de cette source d'émanation en lui-même déjà, voilà. Et comme cette source d'émanation, c'est la chair, voilà, c'est une action de grâce. C'est pour ça que l'Eucharistie a été instituée pour Marie, hein, et pour le Père. Comprendre quand même quelque chose de l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie, finalement, c'est une question de cœur, une question d'amour, Si on est arrivé à la fin, si on est à l'intérieur de notre Sainte Trinité, dans l'intime, on est forcément humble. On est forcément une très grande puissance intérieure. C'est la puissance divine elle-même. On est très très pur, on est substantiellement immaculé, on peut traverser toutes les épreuves avec une patience sublime, dans une impassibilité d'amour parfaite. Bref, on est dans une obéissance, quoi, on fait la volonté du Père, on est dans le fiat éternel du Soleil, de la Très Sainte Trinité, on se nourrit, on n'a plus peur, puisqu'on a toutes ces. Évidemment, donc on a peur si on est en dehors du cœur Jésus, du cœur du Père, du cœur de. Donc la nourriture, ça va nourrir le cœur divin. Vous voyez, vous connaissez l'histoire que nous avons un cœur humain, nous avons un cœur psychique d'abord, nous avons un cœur humain, nous avons un cœur spirituel, originel, primordial, nous avons un cœur surnaturel, nous avons un cœur divin. Et c'est ce cœur divin qui se nourrit. Mais pour celui qui est dans le cœur n'est pas endurci, c'est-à-dire il a les sept vertus de Jésus, celles qu'on invoque pour la parousie, quoi, avec les anges, ces sept vertus-là. Il n'y a plus de. On n'a pas peur d'un quelconque redressement, purification pénible, non. Tout est pur en Marie, tout est pur en. Dans le mariage de Marie et Joseph, tout est pur dans la responsabilité avec l'Esprit Saint. Voilà. On est inscrit dans l'interface de la nature humaine qui s'est manifestée dans le temps. Et cette nature humaine nous appartient. Donc elle nous. L'Eucharistie s'adresse au divin. S'adresse à tout ce qui est purement divin en nous. Vient nourrir notre virginité, elle vient nourrir l'humilité éternelle de Dieu, cet effacement d'obéissance, cet effacement sponsal, cette virginité, cette transparence, cette patience. C'est extraordinaire, c'est vrai, que l'effacement éternel de Dieu s'inscrit dans un effacement qui va durer des millénaires, des millénaires, des millions de fois chaque jour. Et on est emporté immédiatement dans la présence réelle de cette présence, d'un effacement, d'une humilité, d'une virginité éternelle, toute brûlée d'amour, de ferveur. Donc c'est une nourriture pour le divin. Je suis pain de la vie. Alors, on n'a rien compris, bien sûr. Alors on peut après faire toute une théologie, justement, pour bien comprendre ce que ça veut dire, ce passage de la transsubstantiation à la transactuation. Aussi, vous préférez, bon, donc, de la communion à la surabondance qui nous emporte, où on est assumé dans le fruit de tous les sacres, dans le fruit, dans l'ivresse, dans l'extase intérieure et éternelle de Dieu. Donc, c'est ce que fait Saint Thomas, hein, on fait une théologie de tout ça. Mais notre cœur est endurci, alors il n'avait vraiment. C'est pas qu'ils avaient mal compris ou un peu pas assez, non, non, ils avaient rien compris sur l'Eucharistie. C'est extraordinaire, cette espèce de prophétie sur l'Église de la parousie. L'Église de la parousie est touchante, avec sa pastorale, elle est ridiculisée par tous ceux qui sont incroyants, ils tiennent. Écrasée par les impies, enfin. C'est quand même touchant, hein. Ça tire quand même des larmes de compassion quand on voit les chrétiens dans le monde. C'est vrai, c'est... Ils sont touchants pourtant. Hein. Mais c'est vrai qu'ils n'ont rien compris. C'est vrai quelque part. Rien. Pourquoi ils n'ont rien compris? Parce que ils ont vu, c'est sûr. Mais ils n'avaient pas vu. Ils n'ont pas vu l'Immaculée. Ils n'ont pas vu le Père. Ils n'ont pas vu. Bon, saint Thomas d'Aquin va t'expliquer quand même. Oui, la transubstantiation, c'est quand tu vis l'Eucharistie à un Zécharon né dans la mémoire de l'union hypostatique de Jésus. Donc, il faut être englouti dans l'instant où Marie s'engloutit en lui au premier instant de sa conception, 9 mois avant Noël. Mais Jésus vit quoi à ce moment-là? Puisque dans la sphère de sa connaissance glorieuse et bénie, complète et totale, dans le soleil de sa pleine connaissance, et il n'a même pas forme humaine. Puisque c'est un génome. La mémoire de l'Eucharistique est quand même, c'est dans cette mémoire, faites ceci en mémoire de moi, que se transsubstancie le mystère de l'Eucharistie. Bon, ça, la théologie est facile à expliquer, ça, bien sûr, évidemment, très compliqué si je dis que la mémoire n'existe plus. Si la memoria dei n'existe pas, et c'est le cas dans l'Église catholique, on se trouve dans une génération qui enseigne, qui explique, qui est particulièrement certaine, dans une certitude totale, que la memoria dei n'existe pas. C'était un truc à. C'est assez vertigineux, je viens de comprendre qu'on est. C'est assez vertigineux, quoi. Bon, ça, c'est de la théologie. Mais c'est de la mystique, si vous voulez, c'est de l'amour, c'est une affaire de cœur, de savoir qu'on ne connaît pas Marie, qu'on ne connaît pas l'Immaculée Conception, qu'on ne connaît pas l'union hypostatique de Jésus dans sa mémoire. C'est-à-dire dans l'instant de son incarnation. Il assume quoi dans l'instant d'incarnation? Mais c'est le cœur totalement divin de l'humanité intégrale, de la nature humaine, dans sa sagesse entièrement transformée, illuminée, sanctifiée, divinisée. La matière tachyonique de la transactuation sur notre responsable de Marie et Joseph, dans l'instant de la mémoria dei du Christ. À l'instant d'avant, l'instant éternel du moment, l'instant immortel de toute l'Eucharistie qui en est engendrée. Cette lumière tachyonique, c'est-à-dire bien des milliers de fois plus pure que la lumière assumée par le Verbe de Dieu, qui dans le principe va créer toute chose. Non? Faut avoir du cœur quand même pour connaître Saint Joseph. Saint Joseph, c'est. On croit qu'on est fâché avec Marie. Non, c'est avec Saint Joseph qu'on est fâché. On n'est pas fâché avec la maman, on est fâché avec le papa.
Ouais, c'est pas possible pour ça.
Ça, y a pas de doute là-dessus. On est fâché puisqu'on veut pas, puisqu'on n'a pas, on n'a pas notre cœur dans le papa. D'ailleurs, il faut bien regarder, c'est un phénomène eschatologique évident que le Fils offre au Père, que la caractéristique de la pensée, quoi, pas seulement de la pensée, du comportement, enfin de l'acte. Du moindre des actes de l'humanité moderne, c'est l'absence du Père. Hein. On n'a pas de cœur pour le Papa. Je crois que l'effort principal d'une maman aujourd'hui dans une famille, c'est de protéger les enfants contre le Papa. C'est 100% des efforts de la mère, c'est ça. C'est ça. On peut pas le nier. C'est en fait, c'est quand même diabolique. Freud qui a fait ça, mais c'est les 7 têtes du dragon, tu sais, ça a raison. Il faudrait faire une thèse justement là-dessus. Voilà, pour montrer que le but, c'est ça, c'est la destruction. On n'a pas de cœur vis-à-vis du papa. D'ailleurs, on le voit bien là, quand c'est costumé sur maman. Alors donc, pour comprendre l'Eucharistie, c'est ça que j'aimerais bien, moi, que le Seigneur nous délivre de tout ce qui nous empêche de nous engloutir dans un... pour pouvoir toucher, quoi, voir, sentir, nous émerveiller, puis nous étourdir d'amour, de ce côté-là, quoi, du côté de... Pour comprendre que c'est Saint-Joseph qui est source de l'Eucharistie. Il y a une espèce de Saint-Joseph et la matière de la transubstantiation. Je crois que c'est pas si difficile que ça à contempler, en fait, hein, puisque Abraham s'est nourri de l'Eucharistie. Nation d'Israël aussi. Bien sûr qu'on a apporté, comme a dit l'autre jour, c'était dur alors, mais quand même, j'ai vu une lumière, et puis une lumière s'est approchée de moi, et il y avait une hostie, et cette lumière m'a mis l'hostie dans ma bouche, et c'est une hostie qui était douce, palpitante, solide, mais très, très vivante. Oh, l'ange t'a apporté la communion. C'est la quatrième que je vois qui me dit ça, plus personne. Bon, c'est beau, c'est un miracle, c'est sympathique, c'est bien. Bah, évidemment que Élie le prophète se nourrissait de l'Eucharistie. Abraham se nourrit de l'Eucharistie. L'Eucharistie future. Saint Joseph se nourrissait de l'Eucharistie avant qu'il y ait l'Immaculée Conception. Enfin, bien entendu, enfin, je veux dire. Je pense que ça. C'était pas des phénomènes miraculeux, prophétiques chez lui, c'était direct. Puisque les sources sont toujours conjointes. Hein. Donc il se nourrissait de l'Eucharistie, il savait bien. C'est dans toute l'Écriture, c'est dans toute la Torah que c'est la nourriture de Dieu qui se donne en offrande dans le Saint des Saints. Il ne faut pas croire que Saint Joseph ignorait ce que c'était que le Saint des Saints. Tout de suite dans le Saint des Saints, pour lui, c'est la terre qui doit donner son fruit dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints doit donner. Et la terre, c'est la matière vivante de l'humanité, de la nature humaine absolue. Alors il se nourrit, et c'est toujours dans le Saint des Saints, et dans sa propre mémoire elle-même, entièrement irradiée, d'une manière quasi gemellaire, en fait, c'est pour ça, en fait, avec l'Immaculée Conception future. Et il essaie de s'engloutir dans des cellules eucharistiques, c'est pour ça, staminales, si je puis dire, qui multiplie sa croissance dans la nature humaine immaculée, c'est pour ça, la glorieuse surnaturelle. Mais quand la matière tachyonique, immaculée, de l'Immaculée Conception, se trouve en sa propre mémoire, à se conjoindre d'une manière vivante, dans la matière vivante de son mariage assumé, à ce moment-là, il passe à l'au-delà de l'unité des deux. Et là, on se trouve devant. Ce qui peut nourrir, quoi. Ce qui peut nourrir la nature humaine absolument parfaite, sublime, universelle. Voilà, la fameuse Ave Maria Stella, donc. La félicité de Dieu. Qui va d'en haut vers le bas, et d'en bas vers le haut pour se nourrir de ça. Et c'est bien le mariage du cœur. Du Sacré-Cœur, de la nature humaine, palpitante et embrasée du Saint-Esprit qui est la matière. Et c'est sûr que c'est normal que cette nourriture soit assumée, qu'elle transforme, qu'elle se transforme et qu'elle se donne et qu'elle vive. Et c'est comme ça que la vie intime et parfumée du rassasiement extasié de Dieu s'unit dans l'indivisibilité à ça, à cette matière. Et aussitôt, il y a la mémoria, Christi. Faites ceci en mémoire de moi. N'oubliez pas avec votre cœur, comprenez que c'est une question d'amour. L'amour qu'il y a dans le cœur de Joseph, il a autorité. Alors quand je reçois, si tu n'as pas compris, alors ils n'ont rien compris au mystère du pain. C'est fou, quoi. Pour ça, ils sont 5000. C'est pas... Je pense qu'un enfant, un bébé comprend, quoi. Ils sont 5000. Voilà, c'est tout. Alors, bon, c'est une chose de le dire, hein. Ça, on commence à rentrer à ce moment-là dans le drash, là, vous voyez, on a fait la troisième partie, c'est le drash, maintenant. Maintenant, il faut passer au sod. C'est ça un sermon, ça. Un vrai sermon, première partie, le truc classique, le truc matériel, etc. Alors, deuxième, surnaturel, théologate, ça. Le troisième qu'on vient de faire, maintenant, c'est le drash, voilà. C'est vraiment une question du cœur au sommet, puis après, on passe au sod. C'est-à-dire, c'est ça le paradis. Pardes, le pshat, paix. Le ramas. Côté transcendantal, surnaturel. Le drash, voilà, ça c'est le cœur, c'est qui brûle tout. Et le sod, c'est le secret, à l'intérieur de Dieu. Et pardes, ça veut dire le paradis. Sot, c'est de dire, vous savez, si vous êtes dans les invitations, si vous rentrez dans les grandes invitations de Dieu, que vous les emboutissez en elles, que vous y disparaissez, lui, sa toute puissance divine va pouvoir opérer et vous allez voir, vous allez toucher, vous allez entendre ce que c'est que le pain. Dans les hypostases incréées de Dieu avant la création du monde et après, encore que ce soit très difficile de dire après, puisque Dieu est indivisible dans l'au-delà, enfin c'est pas dans l'au-delà en plus, de l'indivisibilité intime et intérieure personnelle de Dieu. Et Saint Joseph, il a été très marqué par le sod de l'Eucharistie. Ça a été son tourment, quoi. Ce qui est sûr, vous voyez, c'est qu'on se trouve dans un... dans la première année où de l'histoire de l'Église, et puis même de la foi, Saint Joseph doit être invoqué explicitement à chaque canon de la messe. C'est une décision du Saint-Père. Rien que ça. Rien que ça, ça suffit. Il peut faire toutes les bêtises que tu veux jusqu'à la fin du monde. Il a fait ça, c'est fini. Voilà. Il peut donner sa démission maintenant, lui,
seul. Inspiré.
C'est la signature. C'est trop bien comprendre ça. Celui qui s'appelle les rois mages ne voit pas Saint-Joseph, ne voit plus. Ça, c'est une épiphanie eucharistique. Dès qu'on voit que Saint-Joseph a disparu à nos yeux, dans le sod du principe final de l'Eucharistie, c'est ça. Voilà, il est vraiment passé, vous voyez. Il est vraiment passé en se nourrissant comme ça. Il est vraiment passé dans le côté de la nature humaine, universelle. Le côté totalement immaculé, divin et assumé. Et forcément, il s'est toujours dépassé dans l'au-delà de l'unité de lui-même, il s'y est effacé. Et heureusement qu'il se marie à ce sponsal avec l'Immaculée Conception, parce que ça permettait cet effacement mutuel et la disparition dans l'émanation. C'était pas l'émanation du Saint-Esprit, hein. C'est l'émanation eucharistique, hein. C'est l'émanation tachyonique. Et donc, vous voyez bien que si on prend le sang et le corps, la chair, comme nourriture, il y a une très grande puissance. Alors, qu'une permission soit donnée à l'Antichrist de pouvoir infester de manière nanométrique, tous les êtres humains, c'est rien à côté de la puissance. C'est normal, si je puis dire. Il n'y a qu'à dire c'est normal, bien d'une petite conversation. Mais il faut quand même que nous apprenions aussi, avec Saint Joseph, à rentrer dans la maîtrise parfaite des éléments. Merci Saint-Hildegarde de nous avoir expliqué. C'est pas imaginatif. Je prends autorité sur les éléments au nom de Jésus. Autorité au Jésus sur les éléments. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment une question de transformation surnaturelle, intime. C'est vraiment surnaturel, c'est vraiment totalement. On voit quoi, vous avez là. Il s'y habitue, si vous voulez, par anticipation. Par appropriation et par puissance, tant que l'immaculée conception n'était pas créée. Il s'y habitue parce qu'il savait que c'était de ça qu'il fallait. C'est de ça que la nature humaine et la nature divine ensemble unis pouvaient vivre dans l'indivisibilité. C'est pour ça qu'on demande après la communion, on dit que l'effort tridimensionnel de liberté à créer de Dieu, évidemment, se saisit de l'infiniment petit eucharistique que nous venons de recevoir pour que cette sponsalité paternelle dans l'Immaculée Conception s'en saisisse et la plonge avec toute la matière et tous les temps de l'univers dans l'indivisibilité de Dieu. Alors ça devient infiniment grand, la communion. Saint-Joseph, il sait très très bien que c'est de ça qu'il doit vivre déjà, avant qu'il y ait l'Immaculée Conception. Et il n'est pas le principe de l'Immaculée Conception tout seul. Et il faut qu'il ait le fruit de l'Immaculée Conception dans le fruit de l'Eucharistie, dans le sod. C'est son tourment, c'est sa vocation. Et si Si on dit ça, c'est pas pour faire le coq, hein. Non. Cocorico, personne n'a jamais dit ça avant nous. Hein? Aux Pays-Bas, ils savent pas. C'est intraduisible en néerlandais. C'est pas pour faire le coq, non, non. C'est parce que je crois que c'est très important, parce que pour nous, on sait très bien. Tout va ensemble d'ailleurs, vous voyez, la Maria Dei, Saint-Dessin, l'Hypostatique, l'Immaculée Conception, Saint-Joseph, le cinquième sceau de l'Apocalypse, le fruit des sacrements, tout ça, c'est le monde nouveau, tout ça va ensemble. C'est curieux, ça va ensemble. Il y a une. C'est pas seulement une logique, c'est. Il y a un épanouissement. Donc avec Saint Joseph, on comprend que Saint Joseph était un immense contemplatif, c'est sûr. C'est bien plus qu'un contemplatif d'ailleurs, mais dans sa. Dans, il savait que la nature humaine avec lui aboutissait à un terme terminant, vous voyez? Sur le bâton de l'autorité, comme dit saint Hildegarde, triple hélice du gouvernement des éléments du monde et du temps et de l'humanité entière, voilà, est donné à l'homme, Saint Joseph. C'est sur son bâton, sur son autorité, que fleurissent les trois lys. Quand on fait un vitrail, c'est émouvant. Mais le vitrail, c'est pas pour avoir une dévotion. C'est pour savoir comment, nous, avec Saint Joseph, dans quelle voie nous allons nous engloutir pour faire ce qu'il a fait et pour le faire avec lui. Voilà ce que Saint Joseph a expliqué à Sainte Thérèse d'Avila quand elle avait 47 ans, hein, qu'elle a fait ses 7 jours de mort. Et que Saint Joseph lui a expliqué pendant une semaine. Et puis une fois qu'il l'a expliqué, il l'a ressuscité d'entre les morts, Sainte Thérèse d'Avila. Voilà, intercédé par Saint Joseph. Voilà, maintenant l'oraison, c'est. Voilà, en fait, comme. Ouais, c'est ça l'oraison, c'est Saint Joseph. On ne peut pas faire l'oraison sans Saint Joseph, sinon il n'y a pas de mariage spirituel. Bon, elle le dit comme ça, mais bon, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rentrer dans le sade. Ça veut dire qu'il y a une vie contemplative quand même. Il faut regarder Saint Joseph, c'est pas compliqué, hein? Il est tout seul. Et il sait très bien que dans la nature humaine tout entière, hein? Puis Adam jusqu'à la fin du monde, hein? Arrive avec lui à un terme terminant. Il le sait. Je sais, ça le rend pas, ça le rend très humble, hein. Il le sait, alors du coup il obéit, c'est ça. Il obéit, je veux dire, il fonce, quoi, il s'y engloutit, il va en avant. C'est son tourment de vivre, de se nourrir de l'Eucharistie, se vivre de l'agneau, quoi. L'agneau, le fruit dans l'agneau la nourriture éternelle de la très sainte Trinité. Fait son tourment, puisque la nature humaine ne l'a pas encore. Mais il sait que ça coule dans tous les temps, dans tous les lieux. Jusque dans l'instant primordial de la création, de la sagesse accomplie de Dieu. Et donc, par la foi, nous en avons accès, il sait très bien. Donc, il dit, je ne peux pas être en dehors de la mer. Et donc, il va se nourrir. Il va se nourrir. L'agneau va nourrir sa virginité, quoi. C'est la virginité de la nature humaine entière, mais aussi donc de la sponsalité de la Jérusalem glorieuse accomplie. Et il a compris que la dimension sponsale de ce terme terminant, de la royauté divine dans la nature humaine qu'il est, ne peut que disparaître dans l'au-delà l'unité, c'est pour ça. Là. La mesure, elle s'est même accomplie, glorieuse. Et se nourrit donc de l'au-delà de l'unité, c'est pour ça, qui en émane, pour pouvoir atteindre cette mendication. Et puis, suspendu, assumé avec ça, pendant 19 ans. Et c'est ce qui fait son mariage spirituel. Et quand il est entièrement assumé parfaitement, tachyoniquement, pour tous les temps et pour tous les lieux, à ce moment-là, Dieu peut créer l'Immaculée Conception. C'est magnifique de comprendre ça, parce que ça, c'est trop fort, parce que c'est quelque chose d'équivalent, d'analogue, de supérieur, au centuple, 5000 fois, qui s'opère lorsque il se réalise tachyoniquement. Ça c'est horrible d'employer des mots pareils, tachyoniquement, de manière tachyonique, staminale, n'est-ce pas ça ? 13 ans plus tard, en fait 14 ans plus tard, est-ce que c'est pas ça le secret de la croix glorieuse ? Ce 14 ans plus tard, et c'est beau, enfin, je sais pas seulement beau, c'est délicieux de suivre le parcours qu'il fait, qu'il prend dans la nature humaine. Et la nature humaine opère cette croissance en sa transsubstantiation. Voilà, et quand l'Immaculée Conception est là, voilà, il en est prévenu. Disait Saint Jean de la Croix dans la vie flamme d'amour, vous verrez. On est prévenu, mariage spirituel, tu le sais. Donc, on est prévenu, et donc il vit, il sait que. Bon. S'il y a quelque chose de très. C'est pas. C'est délicieux, il faut dire, les délices, je crois. Les délices. Le tourment des délices. De l'époux de la première personne de la Trinité, lorsque l'extase de Saint-Esprit l'oblige à disparaître lui-même dans les délices du temps. C'est il le fait avec Marie, il le fait avec elle parce qu'elle est toute petite, elle est encore dans l'impassibilité de sa mémoire à elle. Et donc c'est lui qui va la faire grandir avec ça. C'est beau ça. Et la source de la croissance de l'Immaculée Conception jusqu'à la sponsalité, ces 14 ans extraordinaires, ils permettront à la plénitude glorieuse et infinie et éternelle de s'établir dans un seul instant dans la nature métachionique de Jésus, sans qu'il y ait besoin de croissance. Voilà, et ça, c'est l'Eucharistie. Et bien, ils n'avaient rien compris. Et nous non plus.
Heureusement.
C'est une question de cas. Disparu dans la sorte eucharistique, qu'est-ce que vous voulez je vous dire de Maria? Si on la contemplait, vous voyez ce que je vous dis là, si on la contemplait, si on le touche, de la contemplation, si on le voit, si on la saisit, si on a envie, à ce moment-là, on prend autorité sur le monde tachyonique tout entier. Les influences nanométriques d'Antéchrist. Donc la marque de la bête, oui, est contrée uniquement par la marque intérieure eucharistique. C'est pas une marque. cluster, vous voyez. On est marqué par lui. Il faut dire que, bon, c'est vrai, sans jeu de mots, hein, il est remarquable. Hein. Tout le temps, Joseph, il faut reprendre. Avec lui. Et lui, là, et. C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que l'Immaculée, quand elle regarde, elle est comme. Il n'y a pas de possibilité d'erreur en elle, puisqu'elle a plénitude de sagesse, d'esprit d'intelligence, d'esprit de science, d'esprit de sagesse, elle a la plénitude. Donc elle regarde sa réserve. Hein? Elle ne doit pas avoir beaucoup de mal à aimer. Hein? Elle n'a pas peur, hein. C'est beau, ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et il y a une transformation, Marie. Hein. Il y a une transformation. Hein. Il y a une intensification. Cette croissance en compréhension, en intensification, en actuation, dans l'intelligence de l'Immaculée Conception, ça vient de Saint-Joseph. Hein. Ça, c'est indéniable. Mais c'est vrai qu'il doit son absolution à l'Immaculée Conception, c'est-à-dire au mystère de compassion. C'est sûr qu'il y a une complémentarité, ça c'est sûr. Ah, ils sont pas pédés pour un sou. Hein.
Ah, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr. Et donc c'est quelque chose de beau, quoi, de cette année 2015, de prendre cette consécration parfaite. La consécration, n'a-t-il pas pour l'année 2015, doit être une consécration parfaite. Après avoir dit Saint-Joseph, doit être dans le canon eucharistique. Maintenant, il faut que la consécration soit parfaite. On est enveloppé par Saint-Joseph pour que notre consécration soit totale, victimale, soit parfaite. Et l'enveloppement du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il est le champ morphogénétique principal du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et l'enveloppant.